C'est une colère que le gouvernement n'a pas vu venir. Face à la mise en place de la taxe carbone sur le carburant, une partie de la France s'est soulevée, étranglée, crie-t-elle, par la taxe de trop.
J'en ai marre de tout, j'en ai marre de payer, j'en ai marre de voir que tout augmente et que les retraites diminuent.
Cette crise arrive alors que le président voulait faire de cette année 2018 celle du virage social. Mi-septembre, il a présenté son plan de lutte contre la pauvreté, un investissement de 8 milliards sur 4 ans, une volonté de réinventer l'État-providence du 21e siècle.
Ça n'est pas un plan de charité. Ce n'est pas un plan charité car il ne s'agit pas de permettre de vivre un tout petit peu mieux dans la pauvreté. Il s'agit de sortir de la pauvreté.
Emmanuel Macron dit vouloir adapter le système de protection sociale à l'accélération économique et technologique en cours. Après le Code du travail, l'exécutif a mené de front la réforme de la SNCF au grand dam des syndicats.
Personne n'a aucun intérêt à ce que ces cheminots ils aient le sentiment qu'on leur a marché dessus pour continuer à faire fonctionner la SNCF. En plus, ce serait totalement injuste.
Pour Emmanuel Macron, la France doit passer à l'âge de la Start-up Nation. En témoigne la visite présidentielle à la station F d'octobre dernier.
Cet écosystème, il est aussi porteur d'une forme de responsabilité sociale, d'une conscience environnementale, d'une volonté d'inventer des modèles justement économiques qui sont en même temps des modèles éducatifs et transformation tout entière de la société.
Pourtant, la croissance ne suit pas. La théorie du ruissellement ne prend pas. Dans un univers mondialisé, l'économie française est rattrapée par le ralentissement global et notamment les tendances protectionnistes symbolisées par l'action de Donald Trump.
L'Union européenne a été mise en place pour profiter des États-Unis, pour attaquer notre tirelire, non ? Nous ne pouvons pas accepter ça.
Face à Donald Trump, Emmanuel Macron a-t-il les clés pour transformer le pays ? Comment réinventer notre modèle pour résorber les fractures de notre société ?
Ouais, 2018, une année cruciale. Daniel Cohen, on revient sur les gilets jaunes quand même. La réponse que le gouvernement a apportée à la crise pour que se dénoue cette crise précisément, est-elle la bonne réponse ?
C'était la réponse qui était tout de même en partie attendue, c'est-à-dire les gilets jaunes se sont mobilisés autour de cette question du prix du carburant, du pouvoir d'achat. Donc c'était la question qui unifiait des demandes. Par ailleurs, totalement contradictoire des uns et des autres, mais ce point fixe.
Vous voulez dire moins d'impôts et plus de services publics,
voilà, exactement.
Plus de trains, plus d'écoles, moins de prélèvements.
Voilà, exactement. Il y avait des aspects, on va dire, tout simplement baisse d'impôts, il y en a marre de payer des taxes. Et puis, il y avait, non, on veut bien payer des impôts, mais à condition que ce soit juste. Et la question de l'ISF est revenue comme un boomerang constamment dans cette discussion. Donc, on voit bien, il y avait deux mamelles à cette contestation, une fiscalité d'accord mais juste, et puis pas de fiscalité du tout. Et tout ça s'est rassemblé autour de cette question du pouvoir d'achat, et je crois que le gouvernement a fini par le comprendre. Mais ayant fait ça, et bon, on va voir ce qu'il en est exactement dans les consciences françaises, mais ayant fait ça, il y a beaucoup d'autres choses dont cette crise était aussi l'expression, une forme de prolétarisation rampante de beaucoup de métiers, le sentiment de ce qu'on appelle la France périphérique. C'est un peu compliqué, c'est pas si simple, c'est pas linéaire, mais enfin bon, il y a des petites villes qui se sont totalement abandonnées, des grandes villes, parce que les services publics n'y sont pas, parce que on passe un temps fou en transport, ce qui nous ramène à cette question du prix du diesel, etc. Ouais. Il y a beaucoup d'autres choses à faire sur le travail, sur les territoires, pour reconquérir, en fond, l'esprit et le cœur de ces personnes. Donc là, on a un peu acheté la paix à court terme, et il fallait évidemment le faire, mais toutes les questions restent évidemment posées, en réalité.
Mais vous dites que plus généralement, sur un plan plus macro, on est arrivé à la fin de la société industrielle, et vous dites même qu'on avait signé une sorte de pacte faustien, on acceptait la déshumanisation qu'induisait la société industrielle pour la production, au nom de la production, et maintenant on est en train de resigner un pacte faustien avec une société numérique qui va à nouveau déshumaniser tous les liens, qui va créer de la déliaison sociale.
Voilà,
d'une autre manière.
Oui, c'est ça l'idée. C'est-à-dire la société industrielle, elle était contestée en son temps et notamment dans les années 60, dans cette culture des 60s auquel le livre fait référence avec cette chanson de Bob Dylan, Times They Are Changing. Mais elle avait quelque chose de précieux qui était qu'elle proposait un modèle de croissance appétissant, répétitif, obéissant, mais inclusif. C'est-à-dire que c'est une période au cours de laquelle les inégalités ne progressent pas. Le salaire d'un ouvrier et le salaire d'un ingénieur, d'un contremaître et d'un patron progressent exactement au même pas. Il est très très difficile de faire apparaître le moindre creusement entre la progression du revenu des uns et des autres. Et puis surtout, elle proposait un idéal, on va dire, égalitaire. C'est-à-dire, j'ai aujourd'hui une voiture et un téléviseur, mais toi qui travailles pour moi, dans 10 ans, tu en auras une aussi. Donc on était dans un monde d'objets, de choses, mais qui tendait en quelque sorte à promettre une égalisation des conditions d'existence. Ce monde-là, il a été progressivement démantelé. Et c'est pour ça que c'est difficile de parler de notre époque, parce qu'il y a deux phénomènes
concomitants.
Exactement. Donc il y a un, le démantèlement de l'ancien monde, et la colère des gilets jaunes, c'est plutôt les soldats perdus de cet ancien monde qui travaillent désormais dans un environnement de type artisanal. On y trouve des petits commerçants, on y trouve des conducteurs routiers, on y trouve des gens, des personnes ubérisées, c'est-à-dire qui travaillent dans un monde qui produit un peu la même chose qu'avant. Vous prenez un conducteur d'Uber, c'est toujours quelqu'un qui vous amène d'un endroit A à un endroit B, mais il n'y a plus d'entreprise, il y a un logiciel qui le met directement en vis-à-vis de clients et qui définit ses conditions d'existence. Donc ça, c'est l'ombre portée de cet effondrement qui ressemble à l'effondrement.
Mais en même temps, vous dites que cette société,
d'une civilisation dont on vit les conséquences.
En même temps, vous dites que cette société digitale, on peut la prendre à notre bénéfice à un moment donné, en tirer les avantages, non? Si on sait bien l'utiliser, alors, c'est pas forcément biais définitif.
Donc là, j'ai décrit l'effondrement de l'ancien monde, et celui-là, le numérique n'a été que l'instrument, je dirais, d'une mise en concurrence, d'une souffrance, parce que ces logiciels ont surtout servi à accroître la charge concurrentielle qui pèse sur les gens, alors qu'avant, c'était obéissant, mais c'était inclusif, et ça n'était pas de même nature. Maintenant, voilà, on est aussi en train de rentrer dans le 21e siècle avec d'autres technologies d'intelligence artificielle qui ne sont pas derrière Uber, c'est tout à fait autre chose. On est en train de progresser vers quelque chose d'autre totalement ouvert. Et pour l'instant, et on en parlera bien sûr, il y a des choses qu'il faut faire pour que ces nouvelles technologies soient au service de l'homme. Mais le pacte faustien dont je parlais, qu'on est peut-être en train de re-signer, c'est que ces nouvelles technologies, c'est qu'elles demandent de nous, c'est que nous acceptions de devenir des informations.
Ce sont nos données, en fait.
Voilà, c'est des données sur nous qui vont se substituer à ce qui était la promesse d'une société humanisée, où on se parle les uns les autres, etc. Où je suis le médecin, l'enseignant, le coach, l'éducateur de quelqu'un. De plus en plus, les numériques sont en train de prendre la charge de ces personnes, et donc oui, il y a un risque de déshumanisation, mais on va dire ça sera l'histoire du 21e siècle, c'est-à-dire est-ce qu'on pourra reconquérir ces technologies pour en faire des instruments d'émancipation. Ça fait partie, on en reparlera plus tard peut-être, mais...
Et on va en parler dans un instant. Cohen, une réaction à ces débats?
En fait, on voit rétrospectivement que les gens avaient assez bien que vous avez invités avaient assez bien senti les choses qui se sont finalement manifestées.
Quelque chose,
le fait que le point de départ, qu'il n'y a pas de corps intermédiaire dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ça se paye très cher. Il y avait cette formule du général de Gaulle qui disait « entre les communistes et nous, il n'y a rien ». Et c'est un peu ça l'idée de Macron, c'est-à-dire entre moi et les extrêmes, il n'y a rien. Et c'est dans ce rien qu'avait jailli mai 68 pour le général de Gaulle, c'est dans ce rien qu'ont jailli les gilets jaunes.
Il s'est rattrapé pour le coup.
Il s'est rattrapé, ça se reconstruit. Le rapport avec les syndicats, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Mais il est, au fond, l'enfant des réseaux sociaux. Il a surgi grâce aux réseaux sociaux sans aucun parti. Les gilets jaunes lui ont envoyé, d'une certaine manière, l'appareil.
Lui-même eux aussi outsider et eux outsider
exactement,
en miroir
avec les
l'un
mêmes, exactement, avec les mêmes formes d'apparition. Et il s'est rendu compte, le pouvoir, le gouvernement, à quel point c'est difficile de dialoguer avec des gens qui n'ont pas de représentants légitimes, qui se sont construits au fond une identité collective un peu à tâtons. C'est un élément important, par parenthèse, tout le monde l'a noté, mais c'est très important de souligner. Les gilets sociaux ont découvert, ce sont encore une fois des professions très éclatées qui vivent souvent seules, sans avoir une conscience collective de leur existence. Ils l'ont découvert en étant autour des bras zéro, à découvrir qu'en réalité,
la communion,
oui,
la solidarité.
Exactement, ils ont découvert, au-delà de la solidarité, je pense qu'ils ont surtout découvert le fait que leur souffrance individuelle était collective. Il y avait un passage célèbre de Hannah Arendt pour commenter la montée du totalitarisme dans les années 30. Elle disait, on est passé d'une société de classe à une société de masse. Les masses, c'est des individus isolés qui subissent cette souffrance individuelle sans avoir la conscience, la compréhension du fait que c'est pas eux, que c'est le système. Et bon, le totalitarisme, c'est une réponse à ça. On voit qu'avec ce mouvement des Gilets jaunes, il y a quelque chose de cette nature qui s'est créé, des gens désyndicalisés, vivant loin de tout, qui découvrent que leur souffrance, elle est collective. C'est ça qui a été très fort dans ce mouvement, mais c'est aussi ça qui fait qu'il n'y a pas d'interlocuteur
constitué. Ils réclament aussi un nouvel État-providence. De quoi, pour vous, est le nom de ce nouvel État-providence qui doit se construire? On ne le voit pas bien se dessiner.
D'abord, quand on dit nouveau, il faut quand même se méfier. C'est-à-dire, je pense que l'ancien, il faut quand même qu'il continue de fonctionner. C'est-à-dire, on parle des syndicats. Je ne sais pas si vous les mettez dans la liste de l'État-providence, mais on voit qu'on a besoin, on va dire, d'un nouveau syndicalisme, mais certainement pas d'un monde dans lequel il n'y aurait plus de syndicats. L'enjeu pour les syndicalistes aujourd'hui, c'est justement de partir à la conquête de ces ouvriers parcellisés, atomisés, qui travaillent plutôt dans des sous-traitants que dans des maisons-mères, qui étaient le cœur de métier, on va dire, du syndicalisme classique. Mais oui, un nouveau syndicalisme, c'est important. De même, l'État-providence, c'est donner des ressources à ceux qui n'en ont pas, pour aller très vite. Donc l'ancien État-providence, c'est « je n'en ai pas parce que je suis malade, parce que je suis une femme enceinte ou parce que je suis retraitée ». C'était ça, ne pas avoir d'emploi. On comprend depuis longtemps maintenant qu'il faut donner des ressources aux gens quand ils sont entre deux emplois, quand ils sont dans un travail à temps partiel subi. Bref, on comprend qu'il faut complémenter la même ambition, mais avec d'autres dispositifs.
Pour le
alors, il y a plein de variantes, mais effectivement, je me souviens qu'on avait eu un débat il y a 3 ans autour de ces questions, mais le revenu universel fait partie des réponses. Le problème du revenu universel, c'est qu'on a tendance à penser que c'est, au fond, pour faire le deuil de l'emploi qu'on va passer dans une société un peu comme l'Empire romain avec du jeu et des cirques, là, du cirque et du pain pour la plèbe. C'est pas ça le revenu universel, c'est donner aux gens les moyens justement de ne pas avoir à survivre, de ne pas avoir à travailler pour survivre. Mais donc,
est-ce que ce qui a été fait sur la prime d'activité, c'est une forme d'amorce de revenu universel?
En tout cas, la prime d'activité qui est elle-même l'héritière du RSA, qui est elle-même l'héritière du RMI, va dans cette philosophie. Alors il faut que ce soit universel. Voilà, c'est sous conditions et surtout, bon, voilà, il faut comprendre que la difficulté de l'exercice auquel on est soumis, c'est qu'on ne sait pas qui sont ciblés. Moi, je comprends que ça va surtout être ciblé autour du SMIC. En fait, une mesure qui aurait consisté à relever globalement de 30% la prime d'activité, ça m'aurait plu parce que je vois qu'on aurait été justement dans toutes les... Mais je ne nie pas les difficultés qu'il y a autour de cet exercice parce qu'on accuse parfois, et je crois que vous me l'aviez fait d'ailleurs vous-même il y a 3 ans, on accuse parfois les partisans du revenu universel d'encourager implicitement la précarité parce que bon, si j'ai un deuxième revenu, donc tout ça est très compliqué, mais en tout cas on voit la direction vers laquelle il faudrait aller pour construire quelque chose d'un peu neuf qui accompagne les gens, non pas au début, à la fin de leur vie, mais à toutes les étapes de leur existence. Et puis il y a la question des territoires, des services publics dans l'État-providence.
Quand vous reviendrez?
Quand je reviendrai, alors dans 3 ans.
Parce que là, maintenant, après la France et seulement la France, maintenant la France dans le monde. Daniel Cohen, 2018, autre changement économique majeur. Un président businessman sans vergogne, Donald Trump, renforce la doctrine protectionniste à la tête de la première économie mondiale. La France et l'Europe sont-elles un petit peu les bonnes filles naïves d'une mondialisation qui n'est plus si heureuse que ça? On en parle avec vous, bien sûr, Daniel. Avant de parler, Daniel Cohen, des partenariats éventuels avec les pays émergents, comment doivent se comporter la France et l'Europe face à Donald Trump qui écrase le multilatéralisme, qui est fossilophile, qui aime les industries fossiles et qui est climato-sceptique et qui plus est protectionniste à mort?
Voilà. Alors, donc, en fait, ce qui résume tout ça, c'est qu'effectivement, Donald Trump, au-delà du commerce ou du climat, ne supporte pas le multilatéralisme. Il ne supporte pas l'idée que les États-Unis doivent se soumettre à des règles déterminées, par des agences, des instances, voire même entre les gouvernements. Ça, c'est le trait qui partage tous les sujets qu'on vient de voir. Et donc, en effet, la première chose qu'il a faite, c'est de dénoncer l'accord sur le climat. J'ai envie de dire, indépendamment même de ce qu'il pense vraiment du climat, dont on sait ce qu'il pense par ailleurs, mais il ne pouvait pas supporter cette idée qu'on impose aux États-Unis une politique climatique. C'est évidemment une catastrophe pour le monde de penser qu'on puisse, comme ça, se retirer d'accords aussi importants, surtout quand on est la grande puissance qui montre le chemin. La deuxième chose, c'est que l'Europe, quand même, par rapport à ce qui a été dit au départ, a réussi à s'imposer vis-à-vis des États-Unis. Juncker est arrivé à Washington et en 2 jours, ils ont réglé un accord. Pourquoi? Parce que l'Europe a pu cibler à chaque fois que les États-Unis les menaçaient de rétorsion. Ils ont dit, très bien, alors nous, on va taxer les importations d'Harley-Davidson. Pas de chance, elles sont fabriquées là où on a voté pour Trump. Ah, vous continuez, alors maintenant on va taxer les oranges de Floride. En fait, à ce jeu-là, l'Europe est aussi forte parce que c'est le même marché, c'est les mêmes enjeux que les États-Unis, et ça s'est tout de suite arrêté. C'est quand même important de le noter. Maintenant, le troisième point, plus important et peut-être plus intéressant, qui nous ramène à notre situation avec ce qu'on appelle la montée du populisme. Le programme de Trump, au-delà de ce que son vient de dire, c'est quelque chose de tout à fait paradoxal. Il est à la fois en interne totalement libéral. Il baisse les impôts, il ne croit pas en l'État, etc. Et en même temps, contrairement à ses prédécesseurs républicains, il est protectionniste.